Chapitre 16. Un jour, Raoden avait voulu libérer Yen. Il était tout petit, l'esprit simple, mais le cœur pur. Un de ses tuteurs lui avait parlé de l'esclavage et l'enfant s'était mis dans la tête qu'on retenait les Séons contre leur gré. Il était donc allé voir Yen, le visage baigné de larmes, et il avait exigé que le Séon accepte sa liberté. « Mais je suis libre, jeune maître !» lui avait répondu Yen. « Non, tu es un esclave. Tu fais ce qu'on te dit. » « Parce que je le veux bien, Raoden. »« Pourquoi ? Tu ne préfères pas être libre ?»« Je veux servir, » avait expliqué le Séon avec une pulsation rassurante. « Ma liberté, c'est d'être ici, avec vous. »« Je ne comprends pas. »« Vous voyez les choses en humain, jeune maître, » avait dit la créature de sa voix indulgente. « Vous voyez des rangs, des distinctions. » Vous essayez d'ordonner le monde afin que tout trouve sa place soit au-dessus, soit au-dessous de vous. Pour un Séon, il n'y a pas d'au-dessus ni d'au-dessous. Il n'y a que ceux que nous aimons. Nous servons ceux que nous aimons. « On ne te paie même pas !» avait lancé Raoden indigné. « Si, jeune maître. Mon paiement, c'est la fierté d'un père et l'amour d'une mère. Mon salaire, c'est la satisfaction de vous voir grandir. » Si le prince avait mis des années à comprendre ces mots, ils restaient gravés en lui. À mesure qu'il grandissait, qu'il s'instruisait, qu'il écoutait d'innombrables sermons qu'Orati sur le pouvoir unificateur de l'amour, il avait fini par voir les Séons autrement. Ils n'étaient pas des serviteurs, ni même des amis, mais jouaient un rôle bien plus profond et formidable. Il les considérait comme une manifestation de Domu, comme des reflets de l'amour de Dieu envers son peuple. Par leur service, ils se trouvaient beaucoup plus proches du paradis que leur maître supposé ne pouvait le concevoir. « Tu es enfin libre, mon ami, » dit Raoden avec un pâle sourire, en regardant Yen pendiller près de lui. Le Séon ne le reconnaissait toujours pas, mais il semblait rester dans son voisinage. Le Shaod, quoi qu'il lui ait infligé, l'avait privé de voix, mais aussi de raison. « Je crois savoir ce qu'il a qui ne va pas, » dit-il au-delà, assis dans l'ombre non loin de là. Il se trouvait sur un toit à quelques édifices de distance de la chapelle. Car, non sans se confondre en excuses, les avait expulsés de leur lieu d'étude coutumier. Le vieil homme faisait le ménage avec énergie depuis son arrivée, et l'heure était venue des derniers coups de plumeau. Tôt ce matin-là, contrit mais tenace, il avait chassé tout le monde afin de pouvoir finir. Galadon leva les yeux de son livre. « Qui ? Le Séon ?» Le prince, qui allongeait sur le ventre près de ce qui était jadis une haie, regardait Yen, hocha la tête. « Son haon n'est pas complet. »« Yen, » dit le Dula d'une voix pensive, « la guérison. »« Exact, mais l'haon a perdu son intégrité. Il y a des zones décolorées et de minuscules fractures dans ses lignes. » Galadon signala d'un bruit de gorge qu'il avait entendu, mais sans ajouter quoi que ce soit. Il ne s'intéressait pas autant que son compagnon aux Aons ou aux Séons. Raoden observa Yen quelques instants, avant de se replonger dans son livre sur l'Aon d'or. Il n'alla pas très loin, cependant, le Dula avait un sujet de préoccupation. « Qu'est-ce qui te manque le plus, Sulé ? » demanda-t-il d'un air contemplatif. « Ce qui me manque le plus ? De l'extérieur ?» « Colo, qu'est-ce que tu rapporterais à Elantris si tu en avais la possibilité ?»«
Je n'en sais rien, il faudrait que j'y réfléchisse. Et toi ?»«
Ma maison, » dit le Dula, perdu dans ses réminiscences. « Construite de mes mains, Sulé, j'avais abattu chaque arbre, façonné chaque planche, planté chaque clou. Elle était belle. Aucun manoir, aucun palais ne rivalise avec un travail fait à la sueur de son propre front. » Raoden hocha la tête, imaginant la bâtisse. Que possédait-il auparavant qui lui manquait pour de bon désormais? Fils de roi, il disposait d'une abondance de biens. La réponse qui lui vint toutefois le prit au dépourvu. « Des lettres, » dit-il. « Je rapporterai une liasse de lettres. »«
Des lettres ?
L'autre aussi semblait surpris.
De qui ?
D'une fille.
Galadon s'esclaffa.
Ah bon ?
Tu serais romantique. Le fait que j'évite de me languir comme un personnage des romans à l'eau de rose si populaire chez toi ne signifie en rien que je ne pense pas à l'amour.
Le Dula leva les mains comme pour parer une attaque.
Je ne veux pas t'offenser. Inutile de te vexer, Sulé. Je m'étonne, voilà tout.
Qui était cette fille ?
Je devais l'épouser.
Ce devait être une sacrée femme.
Sans doute.
J'aurais beaucoup aimé la connaître.
Tu ne l'as jamais rencontrée, Sulé ?
Non. D'où les lettres. Elle vivait au Théode. C'était la fille du roi, en fait. Elle a commencé à m'écrire il y a environ un an. Elle maniait les mots avec tant d'esprit que je ne pouvais que lui répondre. On a continué à correspondre pendant 5 mois. Puis elle m'a demandé en mariage.
Elle t'a demandé en mariage ? Toi ?
Tout de go.
Raoden sourit.
Non sans motif politique. Sa reine voulait une union solide entre le Théode et l'Arellon.
Et tu as accepté ?
C'était une occasion. Depuis le Réode, le Théode gardait ses distances. Et les lettres étaient enivrantes. Cette dernière année s'est révélée difficile. Mon père semble bien décidé à mener l'Arellon à sa ruine, et il n'a aucune tolérance pour la dissension. Or, chaque fois que je trouvais mon fardeau trop lourd à porter, je recevais une lettre de sa reine. Elle disposait d'un séon, elle aussi, et une fois les fiançailles officialisées, on a commencé à se parler, souvent. Elle m'appelait le soir, et la voix que Yen transmettait me captivait. Il nous arrivait de laisser le lien ouvert pendant des heures.
Qui prétendait éviter de se languir comme un personnage de roman à l'eau de rose déjà ?
Lança Galadon souriant. Le prince ronchonna et reporta son attention sur son livre.
Bref, tu as ta réponse.
Si je pouvais avoir quoi que ce soit, ce seraient ces lettres. J'anticipais notre mariage, même si le projet avait vu le jour face à l'invasion d'Ereti en Duladel.
Un silence s'ensuivit. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, Raoden ?
Finit par demander le colosse à voix basse.
Comment ?
Oh, ce que j'ai dit des lettres ?
Non, ce que tu as dit de mon pays.
Le jeune homme marqua une pause. Son ami avait affirmé vivre à Elantris depuis quelques mois.
Mais les Dula étaient connus pour leur litote.
La République n'était tombée que 6 mois plus tôt.
Je croyais que tu étais au courant ?
De quoi, Sulé ? Au courant de quoi ?
« Je suis navré, Galadon, » dit Raoden avec compassion, en se redressant sur son séant.
« La République du Laden est tombée. »«
Non, » souffla le colosse, les yeux écarquillés.
« Il y a eu une révolution, comme en Arellon, voici 10 ans de cela, mais encore plus violente. La classe républicaine a été éradiquée et une monarchie instituée. »«
Impossible ! La République était forte !» Tous, on y croyait dur comme fer.
Les choses changent, mon ami. Le jeune homme se leva et alla lui poser la main sur l'épaule.
Pas la République, dit l'autre, éperdu. On choisissait ensemble qui gouvernait. Pourquoi se révolter contre ça ?
Je n'en sais rien. On n'a guère eu de nouvelles. Mais le chaos qui régnait en Duladel a permis au prêtre Fjordel de s'emparer du pouvoir.
Galadon leva les yeux vers lui.
Ça signifie que l'Arellon est en danger.
On était là pour tenir les Dereti à l'écart de vos frontières. Je m'en rends bien compte.
Qu'est devenu le Jesker, ma religion ?
Raoden se contenta de secouer la tête.
Tu dois bien savoir quelque chose.
C'est le Shuderet qui est la religion d'État en Duladel désormais, murmura le prince. Je suis désolé.
Les larmes perlaient sous les paupières du colosse. Il ne reste rien du Jesker, alors.
Sinon les mystères, avança Raoden d'une voix faible. Le visage de Galadon se durcit.
Les mystères n'ont rien de commun avec le Jesker. Ils sont une parodie de sacré, une perversion, Sulé. Il n'y a que les étrangers qui n'entendent rien au d'or pour les pratiquer.
Incapable d'imaginer comment le consoler, le prince laissa la main sur son épaule.
« Je croyais que tu étais au courant, » répéta-t-il impuissant.
Le Dula gémit, Son regard morose se perdit dans le vague. Raoden laissa sur le toit Galadon qui voulait être seul avec son chagrin et, ne sachant que faire, regagna la chapelle distrait par ses réflexions. Il ne resta pas distrait longtemps. « Car c'est magnifique !» s'exclama-t-il en regardant alentour émerveillé. Le vieil homme qui lavait un coin de la salle se redressa le visage empreint de fierté. Il n'y avait plus une seule trace de vase. On ne voyait qu'un marbre gris-blanc immaculé. Le soleil entrait à flots par les fenêtres du côté ouest, se reflétait sur le sol brillant et emplissait le volume intérieur de l'édifice d'un éclat quasi divin. Des bas-reliefs recouvraient presque chaque paroi. Jusqu'alors, la crasse dissimulait ses sculptures d'un centimètre d'épaisseur. Quand le prince palpa l'une de ces minuscules œuvres d'art, les personnages se révélèrent si détaillés que leurs visages lui parurent doués de vie. « Ils sont stupéfiants, » murmura-t-il.
« Je ne savais même pas qu'ils étaient là, messire. »
Car le rejoignait en boitillant. « Je ne les ai vus qu'après avoir entamé mon ménage, et ils sont restés dans l'ombre jusqu'à ce que j'aie fini le sol. Le marbre est si poli qu'on croirait un miroir, et les fenêtres sont disposées juste comme il faut pour capter la lumière. »
« Et ces bas-reliefs font tout le tour de la salle ?»«
Oui, messire. Et ce n'est pas le seul bâtiment où on en trouve. On tombe parfois sur un mur ou un meuble sculpté. Il devait y en avoir partout à Elantris avant le Réode. »
Raoden hocha la tête. « C'était la cité des dieux, car... » Le vieil homme sourit. Il avait les mains noires de crasse, et 6 ou 7 chiffons en lambeaux pendaient à sa ceinture. Mais il souriait, ravi.
« Et maintenant, messire ?» demanda-t-il enthousiaste.
Le prince marqua un temps d'arrêt. Il réfléchissait à toute allure. L'autre avait attaqué la saleté dans la chapelle avec la sainte indignation d'un prêtre voué à détruire le péché. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, il s'était senti utile.
Les nôtres s'installent dans les bâtiments voisins, car à quoi servira ce ménage s'ils nous ramènent de la saleté sous leurs semelles à chaque réunion ?
Car hocha la tête, pensif.
« Les pavés posent problème, » marmonna-t-il. « Ce sera un sacré projet, messire. » Mais à en juger par son regard, il semblait impatient de se lancer.
« Je le sais, mais c'est indispensable. Des gens qui vivent dans les détritus se voient comme des détritus. Si jamais nous devons améliorer l'opinion que nous avons de nous, il nous faudra rester propres. Vous vous sentez apte ?»«
Oui, messire. » »«
Bien. » Je vais vous assigner quelques assistants pour hâter la réalisation. » Le groupe de Raoden avait énormément grossi au cours des derniers jours, depuis que les Élantriens avaient entendu parler de sa fusion avec celui de Karata. Bon nombre des spectres qui erraient seuls dans les rues avaient entrepris au désespoir de le rejoindre pour trouver de la compagnie et lutter contre la folie. Le vieil homme se détourna pour partir. Son visage ridé s'éclaira tandis qu'il admirait le résultat de son travail.
« Car ?»«
Oui, messire. » »«
Vous avez deviné en quoi il consistait ?»«
Le secret. »
L'autre sourit. « Je n'ai plus faim depuis des jours. Un vrai miracle, messire. Je ne ressens même plus la douleur. »
Le prince hocha la tête, car s'éloigna. Venu chercher un remède miracle à ses malheurs, il avait trouvé une réponse beaucoup plus simple. La souffrance perdait de son pouvoir lorsque d'autres sujets prenaient plus d'importance. Le vieil homme n'avait pas besoin d'une potion ni d'un haon pour être sauvé. Il lui suffisait d'une activité. Raoden parcourut la salle pour admirer les différents bas-reliefs, s'arrêtant toutefois avant d'atteindre l'extrémité d'une des frises. À un endroit, le marbre blanc poli par les soins de Kahar était lisse. Si lisse et si propre, en fait, que le jeune homme y voyait son reflet. Il demeura stupéfait. Le visage qui lui rendait son regard appartenait à un étranger. Il s'était demandé pourquoi si peu de gens l'avaient identifié. La population connaissait les traits du prince héritier, même sur les plantations les plus éloignées. Il avait cru que les Élantriens, faute de s'attendre à croiser un prince ici, ne songeaient pas à associer Esprit et Raoden. À présent qu'il constatait les changements qui l'affectaient, il comprenait mieux. Sur sa figure subsistaient des traces, des indices de ce qu'il avait été. Mais la transformation était drastique. Il avait perdu ses cheveux. Si son épiderme arborait les taches habituelles, Même les zones épargnées couleur peau 2 semaines plus tôt devenaient grises. Et elle se ridait, surtout autour de sa bouche. Ses yeux paraissaient plus enfoncés. Avant sa métamorphose, il se représentait les élantriens comme des cadavres ambulants, lacérés et putréfiés. En fait, on conservait sa chair et la plupart de ses traits. Mais la peau se froissait, s'assombrissait. On ressemblait davantage à une cosse desséchée qu'à un corps décomposé. Bref, l'évolution n'était peut-être pas aussi catastrophique qu'il envisageait jadis, mais elle restait choquante, notamment sur soi. « On fait piteuse figure, non ?» demanda Galadon depuis l'encadrement de la porte. Raoden releva la tête avec un sourire encourageant. « Pas aussi piteuse qu'elle pourrait l'être, mon ami. Je pourrais m'habituer à ces changements. » L'autre émit un bruit de gorge et entra dans la chapelle. « Ton homme de ménage travaille bien, Sulé. On croirait que le Réode a épargné cet endroit. Le plus beau, mon ami, c'est que le travail a aussi libéré le travailleur. » Le Dula opina et le rejoignit près du mur pour regarder par la fenêtre l'équipe qui dégageait le jardin. « Ils commencent à affluer, hein, Sulé ? Ils savent qu'on propose mieux que leur misérable vie au fond d'une ruelle. On n'a même plus besoin de surveiller le portail. Karata nous amène tous ceux qu'elle peut sauver. Comment comptes-tu les occuper tous ? Ce jardin a beau être vaste, ils ont presque fini de le remettre en état. Et l'entrice aussi est vaste. On leur trouvera de quoi faire. » Galadon les observait, d'un air indéchiffrable. Il semblait avoir surmonté son chagrin, pour l'heure. « À propos de travail, j'en ai un pour toi, » dit Raoden. « De quoi détourner mon esprit de la douleur, Sulé ?»« Si on veut, mais ce projet devrait te paraître un peu plus important qu'un simple nettoyage. » Il fit signe au Dula de le suivre, gagna le fond de la salle, extirpa une pierre d'angle, passa la main dans la cavité et en tira une dizaine de sachets. « En tant que fermier, comment jugerais-tu ce grain ?» Le colosse en prit un au creux de sa main et le retourna à plusieurs reprises pour en apprécier la couleur et la dureté. « Pas mal, » dit-il enfin. « J'ai vu mieux, mais pas mal. » « La saison des semailles approche, non ?»« À en juger par la chaleur ces temps-ci, elle est déjà là. » « Bien, ce grain ne se conservera guère dans ce trou et j'ai peur de le laisser au vu de tout le monde. » Galadon secoua la tête. Oublie ton idée, Sulé. Cultiver est une activité de longue haleine. Ces gens vont arracher et dévorer les premières pousses. J'en doute, mon ami. Raoden promena quelques grains sur sa paume. Ils changent déjà. Ils voient qu'ils n'ont plus besoin de se comporter comme des animaux. La place manque pour la mise en culture. Ton champ ne sera qu'un lopin de terre. Cela suffira à semer cette petite quantité. L'an prochain, on aura davantage de blé et on se souciera alors de la surface nécessaire. J'ai entendu dire que les jardins du palais étaient immenses. On pourrait les utiliser. Le Dula secoua la tête. Le problème, Sulé, c'est l'an prochain. L'an prochain, il n'y en aura pour personne. On ne dure pas aussi longtemps à Elantris. Colo ? Elantris va changer. Sinon, ceux qui nous succéderont se chargeront des semailles suivantes. Je doute quand même que ça réussisse. Tu douterais que le soleil se lève si l'épreuve des faits ne te donnait pas tort chaque jour, s'esclaffa le prince. Essaie. C'est tout ce que je te demande. Entendu, Sulé, soupira le colosse. J'imagine qu'on n'est pas encore au bout de tes 30 jours. Raoden sourit, lui donna les sachets et lui serra l'épaule. L'avenir n'a pas besoin de ressembler au passé. Galadon acquiesça, puis fourra le blé dans sa cachette. Il peut encore rester là quelques jours. Je vais devoir trouver le moyen de labourer ce jardin. « Messire Esprit !» lança une voix ténue du haut de la tour de guet que Saolin s'était bricolée. « Quelqu'un vient !» Raoden se redressa et le Dula se hâta de remettre la pierre en place. Un instant plus tard, un de leurs alliés déboula dans la salle. « Messire !» s'écria-t-il. « Dame Karata souhaite vous voir sur le champ. » « Tu n'es qu'un idiot, Daché !» dit Karata d'un ton sec. Le géant musclé qui lui servait de second continua de boucler ses armes. Raoden et Galadon, perplexes, se tenaient devant l'entrée du palais où une dizaine d'hommes, soit les 2/3 des partisans de Karata, semblaient s'apprêter au combat. « Tu peux continuer de rêver en compagnie de ton nouvel ami, » répondit l'autre, mais je n'attendrai pas plus longtemps, surtout que ce taré menace les enfants. Le prince s'approcha discrètement d'un maigrelet à l'air anxieux nommé Oren, qui était du genre à éviter les conflits. Il avait dû rester neutre dans cette dispute. « Que se passe-t-il ? » lui demanda Raoden dans un souffle. L'un des éclaireurs de Daché a entendu Aanden préparer un assaut du palais pour ce soir, murmura l'autre qui suivait de près la querelle au sommet. Daché veut l'attaquer depuis des mois. Il tient enfin son prétexte.
Tu mènes ces gens à un sort pire que la mort, Daché, dit Karata. Aanden a plus de monde que toi.
Il n'a pas d'armes, répliqua le second. L'épée rouillée qu'il passa à sa ceinture cliqueta. Il n'y avait que des livres dans cette université. Et il les a tous bouffés.
Réfléchis.
Le géant tourna vers elle son large visage, qui ne cachait rien de ses sentiments.
J'ai réfléchi, Karata. Aanden est fou allié.
On ne connaîtra jamais la paix tant qu'il partagera une frontière avec nous. Si on l'attaque à l'improviste, on peut se débarrasser de lui pour toujours. Alors seulement les enfants seront en sécurité. Sur ce, il considéra ses soldats de fortune à l'air sombre et branla du chef. La petite troupe, dachée à sa tête, franchit la porte d'un pas martial. Karata se tourna vers le prince. À en juger par ses traits, elle se sentait peinée et trahie.
Pique un suicide, esprit.
Je sais, on est si peu nombreux qu'on ne doit pas perdre un seul homme, même parmi les fidèles d'Aanden.
Il faut arrêter cela. Daché est parti.
Elle s'adossa au mur.
Je le connais bien. On ne l'arrêtera plus.
Voilà qui reste à voir. Sulé, si je puis me permettre, quel est ton plan, au nom de Doloken ? Raoden trottinait non sans mal à la hauteur de Galadon et de Karata. Je n'en ai aucun, avoua-t-il.
J'y travaille.
C'est bien ce que je pensais, maugréa le Dula.
Karata, quelle route va prendre Daché ?
Il y a un bâtiment qui touche l'université, dit-elle. La paroi du fond s'est écroulée il y a quelque temps et certaines des pierres délogées ont enfoncé le mur adjacent. Je crois que Daché essaiera de passer par là. Il pense qu'Aanden n'est pas au courant de l'existence de la brèche.
Menez-nous là-bas, dit le prince, par un autre itinéraire. Je ne veux pas tomber sur Daché.
Karata acquiesça et tourna dans une rue latérale. L'édifice qu'elle avait évoqué était une structure en rez-de-chaussée. L'un des murs se trouvait si près de celui de l'université que Raoden se demanda ce qui avait bien pu passer par la tête de l'architecte. Le bâtiment avait mal vieilli, son toit s'affaissait terriblement et le reste paraissait prêt à s'effondrer. Ils s'approchèrent avec crainte pour jeter un coup d'œil par une porte. Une salle occupait toute la surface. Ils se tenaient près du centre de la structure rectangulaire. Le mur écroulé se trouvait sur leur gauche, et une autre porte sur leur droite.
« Un véritable piège !» marmonna Galadon.
« Je suis bien d'accord, » dit le prince.
« Je parle littéralement. Regarde. »
Il désigna le pilier de soutènement central au bois pourri marqué d'entaille. On l'a affaibli pour qu'il tombe à la première sollicitation. Le jeune homme haussa un sourcil.
Aanden paraît mieux informé que prévu. Daché verra peut-être le danger à temps pour utiliser un autre accès.
Karata secoua la tête.
Daché a bien des qualités, mais la prudence n'en fait pas partie. Il chargera bille en tête dans ce bâtiment sans se donner la peine de lever les yeux.
Raoden jura et s'agenouilla à la porte pour réfléchir. Mais il n'en eut guère le temps. Des voix approchaient. Un instant plus tard, Daché s'encadra dans l'autre entrée, à leur droite. Le prince, qui se trouvait à mi-chemin entre le géant et le mur effondré, emplit d'air ses poumons pour crier
« Daché, arrêtez ! C'est un piège ! Ils ont tout saboté !»
L'autre s'immobilisa. La moitié de sa troupe avait déjà pénétré dans l'édifice. Un cri d'alerte retentit derrière le mur adjacent à l'université et un groupe d'hommes surgit entre les décombres. L'un d'eux, Aanden, identifiable à sa moustache, tenait une hachette. Il bondit dans la salle avec un cri de défi et courut au pilier de soutènement.
« Taan, arrêtez !»
hurla Raoden. Le chef de bande, choqué par l'emploi de son vrai nom, se figea, l'arme brandie. Une moitié de son postiche pendillait, prête à se détacher de sa lèvre supérieure.
N'essayez pas de le raisonner, conseilla Daché en tirant ses propres hommes dehors. Il est fou.
Non, ce n'est pas de la folie qu'il y a dans son regard, mais de la confusion.
Ahandène scia et raffermit sa prise sur sa hache. Le prince, qui recherchait désespérément une solution, avisa les débris d'une grande table en pierre au milieu de la salle. Serrant les dents, il marmonna une courte prière à Domu et entra. Derrière lui, Karata Alta et Galadon Jura. Ahandène, prêt à abattre sa hache, suivit des yeux le jeune homme qui vint se camper près de la table.
« J'ai raison, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas fou. Je vous ai entendu babiller à votre cour. Or, n'importe qui peut simuler. Un fou ne songerait pas à bouillir le cuir pour le manger. Un fou n'aurait pas la prévoyance de fabriquer un piège.
Je ne suis pas Tahan. Je suis Ahandène, baron d'Elantris.
Si vous voulez. »
À l'aide d'une manche dépenaillée, le prince entreprit d'essuyer le dessus de la table renversée.
Quoique j'ai du mal à imaginer pourquoi vous vous voyez en Ahandène plutôt qu'en Tahan. On est à Elantris, après tout.
Je le sais, s'écria l'autre, qui, malgré les remarques de Raoden, paraissait vraiment instable. La hachette risquait de s'abattre à tout moment.
Ah, vous comprenez ce que signifie vivre à Elantris, la cité des dieux?
Il lui tourna le dos sans cesser d'astiquer, qui révérait la beauté, l'art et la sculpture. Il recula, révélant le dessus de la table immaculée et couvert d'un bas-relief complexe, comme les murs de la chapelle.
Ahandène écarquilla les yeux.
L'arme s'abaissa.
« Cette ville est un rêve de sculpteur, Tahan. Hors ces murs, combien d'artistes avez-vous entendu déplorer sa perte? Ces édifices sont des monuments aux arts de la pierre. J'aimerais savoir qui, devant une telle occasion, choisirait Ahandène le baron, de préférence à Tahan le sculpteur. »
La hache tomba par terre dans un cliquetis métallique. Le visage d'Ahandène n'exprimait plus que la stupéfaction.
« Regardez le mur près de vous, Tahan, » murmura Raoden.
Le chef de bande se tourna et, du bout des doigts, palpa la frise que la crasse dissimulait. Puis il entreprit de la dégager.
« Domu miséricordieux, » souffla-t-il. « C'est magnifique. »
Pensez à cette occasion, Tahan. Vous seul, de tous les sculpteurs au monde, pouvez visiter Elantris, voir sa beauté, apprendre de ses maîtres anciens. Vous êtes l'homme le plus chanceux d'Opélone. » D'une main tremblante, l'autre arracha sa moustache.
« Et dire que je l'aurais détruit, » marmonna-t-il. « Dire que j'aurais abattu ce chef-d'œuvre. »
Il baissa la tête, puis s'affala au sol, secoué de sanglots. Le prince exhala, avant de remarquer que tout danger n'était pas écarté. L'escouade d'Ahandène avait des barres de métal et des pierres. La troupe de Daché refaisait son entrée, à présent que le bâtiment ne semblait plus devoir leur tomber dessus. Le prince s'interposa.
« Arrêtez !» ordonna-t-il en tendant une main vers chaque groupe.
Ils s'arrêtèrent à contre-cœur.
« Mais qu'est-ce que vous faites? Regardez Tahan! Sa prise de conscience ne vous a rien enseigné ?»«
Écartez-vous, esprit !»
Daché leva son épée.
« Jamais de la vie! Je vous ai posé une question. Vous n'avez rien retiré de ce qui vient de se passer. »
« Nous ne sommes pas sculpteurs, » répondit l'homme.
« Peu importe. Vous ne voyez donc pas l'occasion que nous offre Elantris. Cette chance dont personne d'autre ne peut bénéficier. Nous sommes libres. »
« Libres ?»
ricana un des membres du groupe d'Ahandène.
« Oui, libres, » répéta Raoden. Depuis toujours, l'homme se bat pour s'alimenter. Se nourrir est une activité exigeante qui occupe l'esprit du matin au soir. Pour pouvoir rêver, on doit manger. Pour pouvoir aimer, il faut se garnir l'estomac. Il en va autrement avec nous. Quitte à avoir un peu faim, on peut se libérer du fardeau qui pèse sur tous les êtres vivants depuis le commencement des temps. Les antagonistes baissaient leurs armes. Il se demanda si son discours leur avait donné matière à réflexion ou les avait seulement laissés perplexes. « Pourquoi nous battre ? » reprit-il. « Pourquoi tuer ? Dehors, on se bat pour l'argent, qui sert à acheter la nourriture. On se bat pour la terre, qui sert à cultiver la nourriture.
Manger, voilà la source de tous les conflits.
Mais on n'a plus aucun besoin de ce genre. Notre corps est froid,
à peine s'il nous faut des vêtements ou un abri pour se tenir chaud. Et ils durent même sans aliments. C'est stupéfiant. Ils se regardaient toujours en chiens de faïence. Le débat philosophique ne valait pas la vue de l'ennemi. Les armes dans vos mains appartiennent au dehors. Elles n'ont aucune utilité à Elantris. Les titres, les classes sociales n'ont pas non plus leur place ici. Écoutez-moi. On est si peu nombreux qu'on ne peut pas se permettre de perdre un seul d'entre nous. Est-ce que cela en vaudrait vraiment la peine? Une éternité de douleur contre un instant durant lequel laisser libre cours à sa haine? La salle s'emplit de l'écho de ces derniers mots. Enfin, une voix rompit la tension.
Je me joins à vous.
Tahan se releva. Si sa voix tremblait, il affichait un air déterminé.
Je croyais devoir être fou pour supporter Elantris, et la folie m'empêchait de voir sa beauté.
Rangez vos armes, vous tous. Ils regimbèrent.
Je vous dis de les ranger,
dit-il d'une voix raffermie. Quoique petit et ventripotent, il en imposait soudain.
C'est toujours moi le chef ici. C'était le baron Ahanden, notre chef,
rétorqua l'un de ses hommes.
Ahanden était un idiot, dit Tahan avec un soupir. Comme chacun de ceux qui le suivaient. Écoutez cet homme. Il y a plus de royauté dans ses arguments qu'il n'y en a jamais eu dans ma prétendue cour.
Renoncez à la colère, ajouta Raoden. Laissez-moi vous rendre l'espoir à sa place. Un bruit métallique résonna derrière lui. L'épée de Daché venait de choir sur le dallage.
Je ne vais tuer personne,
dit-il avant de se détourner pour partir. Ses hommes toisèrent ceux d'Ahanden, puis ils le suivirent. L'épée resta abandonnée au centre de la salle. Ahanden, Tahan, sourit au jeune homme.
« Qui que vous soyez, je vous remercie. »«
Venez donc avec moi, Tahan. Je veux vous montrer un bâtiment. »